grippe et il est contagieux. Si vous, vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, un peu en basse immunitaire, stressé, anxieux, eh ben, ça va appeler en vous la maladie pour vous réparer. Mmh. Et ça, c'est la fameuse théorie du docteur Béchamp, qui avait tout compris, en se disant, effectivement, il avait compris qu'en fait, on se transmet inconsciemment des informations. Et c'est pour ça que, par exemple, dans une famille, comme on a tous à peu près la même alimentation, comme on a tous à peu près le même façon de vivre, eh ben, on est à peu près tous au même niveau, et que quand quelqu'un est malade, souvent dans la famille, la majorité des gens tombent malades à un ou deux jours d'intervalle. Mais en fait, ce sont simplement des résonances. Voilà. Enfin, moi, je ne suis pas médecin. Ce que je vous dis, c'est simplement de l'échange d'informes de mes lectures et de mes recherches. Donc, je n'affirme rien, mais ce sont des possibilités.
Ah oui, mais je suis d'accord. Hein. Ça ne nous empêche pas de parler de certaines choses, même si l'autre à côté n'est pas d'accord. L'avantage, c'est qu'on puisse échanger, discuter de certains points, être pas d'accord sur d'autres. C'est ça, un être humain qui est normal pour moi et qui cherche à apprendre des choses, même si à la fin, il n'est pas d'accord avec tout. Mais c'est comme ça qu'on avance. Et voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait un intervenant. J'ai attendu un peu, mais...
Oui, il y a une question.
Voilà, je ne voulais pas couper.
Édifiant.
Édifiant, si tu veux, si vous voulez parler, c'est le moment.
Oui, bonjour.
Bonsoir.
Mais j'ai écouté Chris, c'est ça?
Oui.
Oui, il a évoqué la fraternité du serpent, qui est sans doute qui s'est perpétuée, qui a infiltré pas mal de les religions, etc., et qui sans doute règne aujourd'hui sur le monde occidental. En effet, je suis assez d'accord, il n'y a qu'à voir le billet de 1 dollar.
Et le sigle de la pharmacie et de la médecine française, qui sont les deux serpents qui montent sur la, comment on appelle ça, au milieu, c'est comme une coupe, les deux serpents qui s'enroulent autour de la coupe.
Et vous avez vu la salle 6 au Vatican?
Oui, tout à fait.
J'ai vu la salle Paul 6. La salle Paul 6. Ouais. Oui, bah, moi, j'en suis là aussi. J'en suis là aussi. En effet, et c'est d'ailleurs ce qui explique, j'ai été assez étonné, si vous voulez. Je comprends ce que vous venez de dire sur certains, qu'on a tendance à penser que les maîtres du monde sont forcément, pas beaucoup de gens, hein, comme les étiquettes tout de suite, on est dans l'antisémitisme par rapport à des personnes de confession juive, etc. Mais en effet, quand on voit ce qui se passe en Israël, la population israélienne n'est pas mieux traitée que celle des autres pays occidentaux. Donc ça montre bien qu'entre guillemets, si on croit à des gens qui veulent un pouvoir absolu sur les populations et pas forcément avec la bienveillance, les Israéliens subissent la même chose. Et donc, si on voulait faire un paquet et dire les méchants sont juifs, on serait à côté de la plaque, puisque ça voudrait dire que vous auriez les dirigeants de l'État d'Israël qui feraient du mal aux juifs en terre d'Israël. Ce serait absurde. Donc voilà, en effet, c'est plus compliqué que ça. Donc je suis assez d'accord avec vous.
C'est ce que je voulais dire, c'est que les gens qui sont juifs ne sont pas forcément ce qu'on appelle des vrais juifs. Ce sont des gens qui ont été convertis et qui se vengent du fait qu'on les a forcés à se convertir, parce que leur vraie religion n'est pas la religion juive. Leur vraie religion, elle est la vénération de Baal.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, et quand sur ce space, des fois il y a David de Nitsa qui intervient et on sent que, en effet, là c'est autre chose. Voilà. Là on est dans les personnes, les bonnes personnes.
Non, mais c'est important parce que quand on voit ça, après, notre vision change complètement.
Exactement.
Et effectivement, les gens disent, bah non, mais Rothschild, c'est un juif, pourquoi il ferait du mal aux juifs? Et quand on sait pourquoi il agit comme ça, c'est parce qu'on sait que c'est un judéen, c'est un hasard, mais ce sont pas des juifs de Judée. Voilà, des vrais, ce qu'on appelle des vrais gens dans la religion et dans leurs croyances profondes. Ce sont des gens qui sont juifs juste dans le nom, mais pas dans l'État.
De toute façon, à partir du moment où, j'ai étudié les mitzvot, etc., je me suis intéressé à tout ça de près, il est clair que les vrais juifs se vivent comme des bergers qui doivent éclairer et guider l'humanité, enfin le reste de l'humanité, et donc placent la barre très très haut. Ils sont normalement très exigeants envers eux-mêmes et cherchent à éclairer les autres. Donc à partir du moment où vous avez des gens, qu'ils soient juifs ou pas, qui ne cherchent pas à éclairer les autres, mais à les abrutir pour mieux les dominer, il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, ils se sont écartés de la voie, quoi. Je suis assez d'accord avec tout ça.
Oui, donc c'est vraiment, les choses sont beaucoup plus complexes qu'on peut le croire. C'est vraiment du billard à trois, voire quatre bandes.
Oui. Et je suis aussi d'accord. Enfin, vous avez dit une chose importante, la notion de les rites un peu choquants, enfin, païens, satanistes, etc. Moi, je suis aussi, il n'y a qu'à voir les réseaux Epstein et compagnie. Ou bien d'ailleurs, il y a une série, House of Cards, on voit une scène assez rigolote, pourtant c'est une série américaine, grand public, où le président des États-Unis qui est en difficulté, qui dérive, et par rapport à une réélection, je crois, enfin je me souviens plus bien quelle saison, quel épisode, mais il va sur une île de gens puissants qui lui expliquent, qui lui font comprendre qu'il est qu'un pantin, et tout ça, il y a des scènes de type... Dans la série, il y a des scènes de type Skullzettbone, enfin de type rite satanique, etc. On le remet à sa place, on lui fait comprendre qu'il y a des forces et des traditions, on va dire, je sais pas quel adjectif mettre dessus, mais bien plus puissantes et qui dirigent au-delà des apparences. Quoi. Voilà. Moi, j'en suis là aussi.
Oui, tout à fait.
Et après, on pose le clé, alors il y a des gens sincères. Il y a des gens sincères, mais plus ou moins manipulés, manipulables ou corrompus, ou tenus. Voilà.
Alors moi, ce que je peux te dire, parce que moi, j'ai...
Ou placé, voilà.
Ouais. Et alors après, tout est très bien filtré. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, j'ai mon grand frère aîné qui est franc-maçon, mais qui n'est pas un grade très élevé. Et lui, il n'est pas au courant de beaucoup de choses. Et il a l'impression de faire œuvre de bonnes choses. Il fait ses devoirs parce que, vous savez, ils les font travailler sur des sujets.
Oui, mais ça s'inverse à partir du 30e degré. Ils accèdent à la vérité au 30e degré, au kadosh. Et là, il y a l'inversion.
Voilà, tout à fait. Voilà,
bah, je connais tout ça.
C'est ce que je voulais expliquer.
Vous pouvez le dire pour les gens qui écoutent. Oui.
Voilà. Et en fait, eux pensent qu'ils font œuvre de bien pour l'humanité, pour la société. Ils ont vraiment l'impression de faire quelque chose de grand. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que comme on arrive au grade 30, et là, les choses sont totalement différentes. Et eux savent quel est le but ultime de leur travail. Mais en fait, ils ont verrouillé tous ces gens-là en dessous. Et comme ces gens-là en dessous, ce sont des gens qui sont tous à des postes clés. Ils sont médecins, ils sont maires, ils sont députés, ils sont patrons d'une grosse entreprise. Ils verrouillent tous ces gens-là. Et du coup, ça veut dire qu'ils les tiennent et qu'ils leur font faire ce qu'ils veulent.
Et c'est extrêmement puissant comme mécanisme. Parce que, en effet, quand quelqu'un... à un pouvoir quelconque ou une notoriété quelconque, etc., dans la société, et ou si cette personne se pose des questions, en gros, elle est, on va dire, cooptée, tamponnée, et après, solidaire d'une communauté et où on la soude dans la communauté. Et donc après, elle est tenue, je suis d'accord, elle est à la fois on est renseigné en permanence sur la personne et à la fois on peut en permanence lui passer des consignes ou lui faire comprendre ce qui est attendu d'elle ou lui faire peur ou enfin voilà, elle est prise dans une matrice automatiquement. Voilà, et oui, je trouve ça très malin.
En fait, très malin.
Et si elle reste naïve ou dangereuse, elle ne monte pas. Si par contre petit à petit elle s'éveille, je le dis positivement, hein, mais c'est pas forcément le bon mot, au fonctionnement réel de certains mécanismes du vivant, de l'univers, etc., on va dire un certain pragmatisme du grand architecte, eh ben, elle monte. Tout en haut, les choses s'inversent. Voilà. Et on atteint le satanisme. Le vaillant, par exemple. Allez-y, je vous laisse reprendre.
Non, mais je suis d'accord. En fait, ils les piègent tous par le réseautage. Alors, ils font marcher les réseaux à fond, ce qui fait que les gens sont très contents parce qu'ils accèdent à des marchés, ils accèdent à des
relations. Oui, oui, oui. Ils voilà. y trouvent un intérêt, oui.
Ils y trouvent un intérêt qu'ils sont obligés de rendre, hein, parce que
en plus,
un être humain qui est quelqu'un qui vous a rendu service.
Oui, il y a une dette morale.
Tout à fait. Et puis un jour, on vous amène au grade ultime, pas pour tous, mais pour une certaine partie. Et là, moi, c'est ce que j'appelle vendre son âme au diable.
Oui.
Et ce jour-là, vous avez vendu votre âme au diable, c'est terminé. Il n'y a pas de retour possible.
Oui.
Je me permets d'intervenir dans votre dialogue, qui est intéressant. Mais on a deux nouveaux intervenants, donc si on pouvait leur laisser un peu la
parole. Oui, pas de problème.
Excusez-moi, mais... Donc,
pas de souci, bien sûr.
Epoch Time, et puis ensuite on a Algérien français. Donc, Epoch Time, si tu veux dire quelque chose, tu as la parole.
Bonsoir, j'ai déjà parlé, je laisse la parole, je reparlerai après. Je suis en train de faire un truc en même temps. À tout de suite.
Il n'y a pas de souci, Algérien français, bienvenue, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas, tu as la parole.
Ça marche, merci.
Algérien français, tu es là? T'appuies sur le petit micro en bas à gauche. Bon, apparemment, il ne veut pas parler. Donc, Chris et Diffion, vous pouvez reprendre votre petit dialogue. C'est bien sympa.
Alors, moi, je voulais juste vous parler ce soir, parce que c'est important d'éveiller tout le monde. Je voudrais que vous vous intéressiez à ce qu'on appelle le groupe Bilderberg. Voilà, le groupe Bilderberg, c'est un groupe d'hommes puissants de la planète, de la planète du monde occidental. Donc, c'est un groupe à peu près de 300 personnes qui œuvrent. Ensuite, vous avez à peu près 70 ou 80 personnes qui sont un cercle un peu plus restreint de gens qui sont les maîtres d'œuvre. Et après, vous avez un dernier cercle de 30 personnes qui dirigent et réellement ce qui se passe. Le groupe Bilderberg, moi je m'y suis intéressé parce que j'ai regardé un peu leurs réunions. Ils se réunissent une fois par an. En général, ils se réunissent avant le G7 ou le G, voilà, oui, le G7. Enfin, vous savez, les grandes réunions des grands, des chefs, des présidents du monde occidental. Et j'ai remarqué une petite chose, c'est que régulièrement, ils avaient des invités dans leur groupe Bilderberg, des invités exceptionnels. Et j'ai fait la liste de ces gens depuis beaucoup, plusieurs dizaines d'années, de ces gens qui étaient invités en invités exceptionnels. Et j'ai vu des gens défiler que je connaissais. Alors, j'ai vu par exemple un monsieur qui s'appelait Bill Clinton, qui a été invité, et qui 4 ans après s'est retrouvé président des États-Unis. J'ai vu un monsieur, une dame qui s'appelait Brigitte Lagarde, je ne sais pas si c'est Brigitte, enfin, Madame Lagarde, qui s'est retrouvée... Christine Lagarde, qui a été invitée exceptionnelle et qui s'est retrouvée présidente du FMI. J'ai vu un monsieur comme Emmanuel Macron, qui a été invité et qui s'est retrouvé président de la France. J'ai vu... plein de gens comme ça, notamment M. Fillon, Monsieur Édouard Philippe, voilà. Et je peux vous dire que si vous vous intéressez à ce groupe Bilderberg, regardez les noms défilés et vous verrez que ces gens-là, vous les retrouverez dans votre actualité, à des postes, soit dans des grosses entreprises, président du CAC 40, ou vous les retrouverez président de votre assemblée ou président de votre pays. Voilà. Le groupe Bilderberg, oui. ça a été oui. fondé juste après la guerre par le prince des Pays-Bas et un autre monsieur qui s'appelle monsieur Rockefeller.
Oui. Vous avez aussi la French American Foundation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne sont pas forcément passés par Bilderberg, mais qui sont passés par la French American Foundation et qui se retrouvent aussi soutenus pour accéder aux plus hautes fonctions. Mais en effet, le Bilderberg, c'est vraiment encore un petit cran au-dessus. Mais vous avez un site, si vous allez sur city.net, si vous passez par mon profil, vous cliquez city.net, vous remontez sur l'œil, et après vous avez sur city.net, vous avez tout un organigramme, enfin une sorte d'illustration. Vous avez le Bilderberg au centre et les organisations, on va dire, des maîtres du monde, les courroies de transmission. Et il y a le Bilderberg qui a une position centrale en vous. Autour, vous avez le CFR, la Trilatérale, le World Economic Forum, la Banque mondiale, le Club de Rome, l'Aspen Institute, l'IFRI. En France, vous avez le siècle. En France, vous avez le siècle, l'IFRI, la Fondation Saint-Simon.
Le siècle, c'est une émanation du Bilderberg. Ouais, ouais. C'est pour tenir les médias avec les fameux chiens de garde.
Oui, oui.
En fait, les gens du Bilderberg réunissent toutes les médias françaises et font des dîners et leur donnent des indications sur les sujets qu'ils doivent évoquer et la façon dont l'évoquer et le message à passer. En fait, ils leur donnent les éléments de langage.
Oui, c'est ça, en effet. Oui, en effet. Et oui. Pas facile de sortir de la matrice, là. En ce moment, elle accélère.
Compliqué, oui, compliqué. Oui. En fait, on joue dans un jeu où les dés sont pipés hein, et on a l'impression d'être acteur, mais en fait, on n'est que des pions, quoi, en fait. C'est malheureux, mais c'est ça.
Alors, je vais regarder un truc. Enfin, je sais pas. Oui, il faut aussi, des gens veulent parler, il faut absolument qu'ils coupent, hein. Qu'ils demandent à parler et qu'ils coupent notre conversation, parce que...
Oui, tout à fait. Ça va faire comme si on avait levé,
il n'y a pas de souci.
Ceux qui veulent répondre ou monter, il n'y a pas de souci.
Il y en a qui sont montés, mais certainement pour mieux entendre, peut-être, parce qu'ils n'ont pas levé la main. Donc, je pense que si vous voulez parler, n'oubliez pas de lever la main.
Ouais. Ouais. Il y avait l'Algérien lyonnais, là, s'il veut parler, mais ouais, il doit être là juste pour écouter.
Ouais. Voilà, sur l'épidémie, j'ai un truc qui m'a étonné, là, que j'étais en train de regarder les données. Parce qu'en fait, ce que je fais régulièrement, c'est que je regarde les données via de l'université Johns Hopkins ou via Our World in Data pour voir si ça correspond au discours tenu dans les médias, etc. Enfin, voir vraiment ce qui se passe, quoi. Et j'ai été étonné de quelque chose, c'est qu'on vient d'apprendre là qu'en Australie, Ils allaient, je crois, les cas contacts, les isoler pour 30 jours dans des camps. Un truc incroyable. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder les données de vaccination et de mortalité en Australie. Et ce qui me surprend, c'est que... Alors, ils ont beaucoup vacciné, mais en effet, ils ont le nombre de morts par million d'habitants qui s'envole depuis 7 jours. Et qui s'envole vraiment. C'est-à-dire qu'eux, ils sont au plus haut. Ils sont maintenant deux ou trois fois plus hauts que leur plus haut depuis le début de l'épidémie. Et donc, et ceci alors qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup vacciné. Donc je trouve ça très étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au moment où, en quelque sorte, le taux de mortalité s'envole à un tel point qu'on pourrait penser, la population pourrait y voir un échec de la stratégie de vaccination, c'est au même moment qu'il durcit sa mort les règles pour les cas contacts et notamment qui brime, mais alors totalement, les quelques personnes encore non vaccinées. Donc ça ressemble Ce que je veux dire, c'est que ça, je me suis dit, mais ça ressemble à une diversion, en fait. C'est-à-dire que plus les gens pourraient prendre conscience des limites de la stratégie du tout vaccinal, plus on fait diversion via des réponses extrêmes, quoi. Ou le fait d'accabler, de stigmatiser, enfin, des choses, hein, comme ça. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. Et parce qu'on voit ça dans, enfin, oui, c'est, ben, voilà, dans les pays les plus durs, quoi. Voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y en a qui surveillent les données.
Oui, non, mais c'est clair que si vous analysez les données et que vous...
Oui, je regarde les données.
C'est clair que on voit bien qu'il n'y a pas de surmortalité flagrante. Hein.
Ah bah c'est... Non, mais là, pendant qu'on parle, je parle pendant qu'on parle, là, depuis... Là, pendant qu'on parle, par exemple, aux États-Unis, ils ont un nombre de morts par million d'habitants, ils sont en train de rejoindre leur pic, c'est-à-dire le pic de la première vague, le pic de la deuxième vague et le pic de septembre de l'année dernière. De septembre, ils sont tout en haut, là, ils sont en train de remonter. L'Angleterre, c'est pareil, ils sont en train de remonter. Alors, ils sont encore loin de leur deux pics précédents. La France, bon, on est en train de monter. Le Canada, ils sont au plus haut de leur deux pics précédents, leur pic de si vous voulez d'avril 2020 de décembre 2021, ils sont tout en haut aussi. L'Australie, elle, je vous dis, elle explose les plafonds. L'Allemagne, ça se passe pas trop mal, ils sont en train de redescendre. Israël remonte là beaucoup. Alors ils sont disons à la moitié ou le tiers de leurs pics les précédents les plus hauts, mais ils sont en train de remonter aussi. Voilà, il y a que l'Inde monte pas. L'Inde, ça reste stable. Ce que je veux dire, c'est que bon, moi, je vois quand même quelque chose d'étonnant, c'est que les pays... Alors, il y a quelques exceptions. Hein. Mais sinon, globalement, les pays riches qui ont beaucoup, beaucoup vacciné, qui ont mis le paquet sur la vaccination, là, les morts sont en train de monter. Hein, non, c'est-à-dire, c'est... On a l'impression que ça marche pas trop tant que ça. Ben, voilà, c'est... Le discours, oui, ça limite les formes graves. C'est vrai, sur le Delta, ça avait fait... Il y avait bel et bien... Ça divisait par 10, ça, c'est vrai.
Ah, moi, je ne suis pas d'accord.
Mais non, ça, non, sur le Delta, seulement sur le Delta. Et depuis,
je suis d'accord
ça...
que, voilà,